deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois.
Écrit libre.
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 Bien que l'on ait été en milieu de matinée, loin de l'heure de pointe, le tram, sans être bondé, promenait encore un abondant flux de voyageurs. À l'arrêt, une dame monta, d'âge mûr, mais encore fraîche néanmoins, et choisit de prendre place à proximité de la sortie. Au moment où elle s'apprêtait à s'asseoir, elle dut se raviser. À la porte venait d'apparaître un frêle vieillard, centenaire sans doute, recroquevillé sur lui-même, dont les jambes grêles semblaient ne plus pouvoir le porter très longtemps encore. Il était si courbé, si ratatiné, que la pointe de son nez reposait sur le pommeau d'une canne qu'il tenait à deux mains. La dame, n'écoutant que son devoir, écarta d'un regard sans appel un importun qui déjà briguait la place et guida d'une main sûre le passager Kakoshim vers le siège vacant. Ce faisant, elle se morigénait déjà à part soi d'avoir trop vite cédé aux instances de sa bonne éducation. Maintenant, elle allait devoir voyager debout, c'est malin. Entre-temps, en effet, d'autres moins scrupuleux s'étaient installés ici et là. Il restait bien quelques places à l'extrême bout de la rame, mais deux femmes voilées qui tenaient salon barraient le passage de leurs poussettes encombrées. L'aventure paraissait bien risquée, d'autant que le convoi se mettait déjà en branle, menaçant de ses chaos poussifs son fragile équilibre. Il ne restait plus qu'à espérer qu'au prochain arrêt se libère une place providentielle. Elle dut se résoudre à rester entre les travées et promena un regard assassin sur tous ces fâcheux qui occupaient indûment les banquettes. Une indolente africaine bien en chair faisait courir des ongles nacrés sur un téléphone portable grand comme une tablette et semblait ne pas vouloir enlever les yeux. Une autre, plus loin, s'époumonait dans sa langue natale à l'adresse d'un interlocuteur invisible. Tout près de là, deux lycéennes parlaient fort et hurlaient de rire, comme l'on fait quand le monde et l'avenir nous appartiennent encore. Un peu partout, de jeunes gens rivés à leurs écrans étaient avachis dans les sièges. Tous, pestaient amèrement la dame en aparté, étaient bien assez verts pour rester debout quelques minutes. Mais non, ces sans gêne regardaient résolument ailleurs, ignorant avec une opiniâtreté sans vergogne la voyageuse debout dans le passage, chacun bien déterminé à conserver pour soi le confort de sa place assise. Ses pieds commençaient à être douloureux, elle avait choisi ce matin-là des chaussures trop coquettes pour l'expédition. Deux arrêts plus tard, le wagon se vida d'un coup, au point que sous la poussée entêtée de la foule, la dame dut sortir sur le quai pour laisser passer les voyageurs qui quittaient enfin, soupira-t-elle excédée, le convoi. Le champ était libre. C'est là qu'un impudent groupe d'écoliers survoltés fit irruption dans la rame et telle une nuée d'étourneaux en folie s'abattit en piaillant sur les sièges vacants, sous l'œil désabusé d'un enseignant éreinté qui n'y trouva, bien entendu, rien à redire. La dame fulmina in petto contre cette invasion éhontée qui contrariait ses projets et poursuivit son périple debout, chahutée dans les mouvements oscillatoires de la plateforme centrale, furieuse de se trouver coincée entre trois messieurs peu séduisants qui, comme elle, n'avaient pu s'installer mieux. Il fallut patienter sans broncher trois stations encore, avant que les petits, qui n'avaient de leur perchoir si convoité cessé de s'égosiller, ne se dispersent sur le quai telle une volée de moineaux en goguette, laissant vacant, c'est pas trop tôt, la plupart des sièges de la rame. Hélas ! La dame, dont l'exaspération menaçait maintenant de déborder, n'eut pas le temps d'échapper à son trio avant que tout soit bondé de nouveau. Dans les escarpins trop étroits, ses orteils meurtris souffraient le martyr. Le convoi repartit d'une secousse, la jetant contre ses voisins indésirables, auxquels elle dut néanmoins s'accrocher pour ne pas tomber, ce qui ne fit qu'exacerber sa rage plus encore. De jeunes gominés, attifés de jogging d'un autre âge, s'étaient vautrés de tout leur long dans les banquettes, et leur regard peu avenant signifiait bien qu'il fallait pas espérer les en déloger, sous peine de devoir en découdre. Nul d'ailleurs n'eut la plomb de s'y frotter. Pas même le contrôleur, monté avec eux, qui choisit fort opportunément de vaquer à l'autre bout du tramway. Tous les autres passagers, rivés sans appel aux strapontins trop rares, regardaient obstinément devant eux. L'irritation de la passagère en était désormais à son comble. Allez, suffit. Après tout, c'est moi qui écris cette histoire. On va pas laisser cette pauvre femme debout plus longtemps. Je vais choisir le bon samaritain qui lui cédera sa place. Non, tiens, pourquoi pas une samaritaine? Cette jeune fille, là, a l'air très bien. Oula, je sais pas ce qui s'est passé. Une gifle est partie, j'entends s'élever un cri, et puis une plainte désespérée. Mais pourquoi aurais-je besoin de votre siège, mademoiselle? Ai-je l'air vraiment si vieille que ça? Et la dame mûre, mais encore fraîche néanmoins, poursuivit debout son trajet, plus enragée encore qu'on eût cru bon de lui porter secours.
La nouvelle précédente et celles qui suivent ont été inspirées de près ou de loin par l'auteur russe d'origine ukrainienne, Nicolas Gogol. De loin, car l'âme slave et les paysages de l'Est sont souvent absents. De près, car on retrouve dans ces divers textes des thèmes chers à Gogol, caricatures de la vie en société, son quotidien, ses rites, ses administrations et bien sûr, ses filous.
Imposante du palais de justice ouvre. Nestor Larosse, avocat de profession, pimpant dans son costume vert et sa cravate à rayures bleues, gravit l'escalier avec frénésie. Il a une grosse affaire à résoudre aujourd'hui, celle du gang des poupées russes. Le jour à peine levé et déjà un bourdonnement s'élève dans les couloirs, au-dessus des colonnades et de l'imposante statue gravée de la devise « La justice protégeant l'innocence ». Les protagonistes prennent place progressivement sur les bancs et dans la salle des pas perdus. Dans les couloirs des bas-côtés, une armada d'attachés caisses, de costumes trois pièces, de tailleurs stricts et de robes de magistrat avance sur ce bruit de talons qui claquent sur le carrelage aux grands carreaux noirs et blancs. Les membres de la cour se pressent à leurs tâches quotidiennes, se frôlent mais se tiennent à distance. Les gestes sont rodés. Chacun s'applique à rendre la justice. Dans ce monde raisonnable, les idées vagues ne peuvent survivre. Les idées claires s'imposent. Impeccables et sur deux, les magistrats s'affairent, bordés d'un côté de greffiers et d'avocats, et de l'autre de plaidoiries et de réquisitoires. Nestor a du panache. Il est roublard et convaincant, cynique et calculateur. Son client est, quoi qu'il en coûte, innocent. Sa démarche exubérante brouille les pistes. Il défend avec passion les causes perdues, les vole à l'étalage aussi bien que les meurtriers, et sans distinction de classe. Dans cet univers sobre, son allure pittoresque et son brin d'irrespect pour la hiérarchie est une source d'agacement pour ses confrères, qui peinent à discerner l'individu. Le doute s'installe sur les motivations de ses envolées lyriques à la barre et sur son train de vie de plus en plus fastueux. Il s'arrange avec sa conscience ou sa cupidité, tant bien que mal. Il est devenu expert en faux témoins et n'hésite pas à convoquer les familles éplorées, imaginées pour l'occasion, et aménager si besoin des preuves falsifiées. Les mensonges assumés sont quotidiens. Plus rien ne l'arrête. Là où commence le mystère, finit la justice probablement. Nestor Larosse travaille au palais dans la rue. Ses clients, il les respire, dans les bars glauques et les rues sombres, la plupart du temps la nuit. Les vautours sans pitié le fascinent et lui rapportent gros. Il est en colère, il veut se venger. De la vie, de la malchance, des trahisons, la liste serait longue. Mais le voilà embarrassé, ennuyé. Il va trop loin, toujours à défendre l'indéfendable, et pire, à endosser le costume du complice. Son dévouement à ses protégés est sans limite. Comment pourrait-il refuser l'alias de billets que lui tendent à chaque visite ses clients peu recommandables? Nestor est devenu, malgré lui, le protecteur d'un gang qui, sans aucun discernement et de manière brutale, vole les belles Matryoshka. Sans pitié pour les femmes, les enfants et les hommes qui en possèdent, il vole et tue. pour récupérer ce qu'ils estiment leur appartenir. Cette histoire est la leur. La Matryona, vénérée de tous, à 8000 km de son isba, réclame ses filles et ses fils, sans exception, les plus sophistiqués en bois de tilleul et les plus communes en bouleau. Les poupées en bois, aux magnifiques peintures laquées et aux formes généreuses, emboîtées les unes dans les autres, doivent rentrer au pays, impérativement, pour préserver la transmission du bonheur et de la prospérité. Nestor a plaidé, d'abord à la faveur de l'un, sans grande envergure, et puis de deux, avant de glisser irrémédiablement du côté de toute la bande. Il défend un, qui en cache un autre, et encore un autre. Il nage dans le principe de l'objet, qui cache à l'intérieur un objet similaire. Et ce sont eux, maintenant, qui statuent sur son rôle et sur sa vie. Cette fois, Nestor s'en sort encore par un acquittement. Mais les magistrats sont de moins en moins dupes et mettent à prix son serment. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Désormais, ne lui parlez plus des Matryoshka. Après sa dernière mission, il a été exfiltré en urgence. Nestor est condamné au fin fond de la Sibérie à goûter au plaisir d'un hiver sans fin.
Quitter la société, ne ressembler à rien, du moins ne plus ressembler à une personne, c'est un rêve ou un cauchemar?
Vous me croirez ou pas, mais ce matin à mon lever, je suis devenu un ballon. Oui, un ballon tout rond. Non pas que j'ai tant grossi, mais c'est la forme que des amis footballeurs m'ont donnée. Je suis un ballon en cuir blanc avec quelques tatouages publicitaires sur la peau. Cela m'aide un peu pécuniairement. La première chose à faire quand on devient ballon, c'est de se rendre sur une pelouse. Sur ce rectangle vert, où je croise des forêts de jambes, chacun a sa méthode pour me parler. La caresse d'un pied de velours ou la frappe violente. Et plus encore, la méchanceté d'un coup de tête. Je ne fais pourtant rien de mal, je subis. Seul le gardien de but tente de me sauver, en me saisissant de ses mains. Le geste n'est pas toujours tendre, mais il me rassure pour un temps. C'est mon allié de circonstance. Il me faut bien du courage pour affronter ces hommes, souvent jeunes, rapides et forts. Je ne suis pas un ballon dégonflé. De fait, je n'appartiens à aucune équipe, mais ils veulent tous m'attraper. Le combat est inégal. Que je sois d'un côté ou de l'autre, même l'arbitre me siffle. Le seul moment où j'ai un peu de répit, c'est quand j'atterris, plus ou moins sonné dans les filets, c'est-à-dire quand il y a but. Souvent les uns contestent, les autres manifestent leur joie, et aujourd'hui, même la télé s'en mêle. Ça me laisse un peu de temps pour récupérer. Il y a aussi des avantages. Je peux vivre à ras de terre comme vous, mais également m'envoler dans les airs, et retomber sans me faire trop de mal. Ce que vous, les humains, ne pouvez pas. Je l'avoue, il est agréable de vous voir d'en haut, pauvre terrien, et très pratique quand il y a trop de circulation. Et puis, je voyage beaucoup, finalement. J'affronte de nombreuses nationalités. Bref, je fais le tour du monde en ballon. Il est l'heure de me lever. Le rêve du ballon rond va se dissiper. Je me hâte lentement. Dans le miroir, placé face à mon lit, je m'entrevois. Mais... Je suis devenu ovale. Vous me croyez ou pas? Un ballon ovale.
JTFM 91.2, les ateliers des ballonnets.
Cette fois, nous sommes là-bas. Est-ce encore une société quand il reste si peu de gens, quand c'est partout la guerre, quand l'unique voisin n'est pas du même camp?
Paka a toujours vécu chez ses parents rue Shevchenko. Nous vivons dans le même village depuis toujours. La même école, le même âge, et depuis toujours nous nous détestons. Moi, Sergueï, j'ai repris la maison des parents décédés il y a 20 ans. Nous habitons rue Lénine à deux rues de chez Paka. Tout cela a une grande importance pour la suite de nos deux vies. Côté Lénine, c'est le printemps. Le soleil éclaire le potager, la prairie reste couverte de fleurs tout l'été, ce qui permet de sortir mes ruches et d'avoir du miel toute l'année. Mais c'est péché de l'avoir appelée cette rue, Lénine. Côté Shevchenko, c'est toujours sombre, et je ne peux comprendre pourquoi un si beau nom de poète et dramaturge écrivant pour la liberté des nations soit relégué dans ce coin. Ici, les hivers sont rudes. Ma femme, Svetlana, est de Vinnytsia, plus au sud. Nous nous sommes rencontrés dans un congrès d'apiculteurs. Coup de foudre, mariage, une enfant, Angelica, j'aime pas beaucoup, mais c'est la femme qui décide. Divorce après 6 ans. Ne s'est jamais habituée aux froidures de l'hiver. Elle est retournée chez sa mère avec notre fille. Heureusement, j'ai mes abeilles. Ici, c'est la guerre. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres du front. J'entends des fois des explosions très assourdies. Toutes les familles de ce village sont parties à la ville. Il ne reste que Paka et moi. Cela nous a rapprochés. Il m'a même prêté ses jumelles car il y avait une forme immobile. On aurait pu croire un corps mort, et Paka a très peur des morts et de la mort, à cause d'une légende qui court dans cette région. Ce ne serait pas sa mère qui l'aurait mise au monde, mais la veuve noire. Celle qui, à minuit, les jours des morts, dépose l'enfant dans une famille pauvre. Il sera éternel, à la seule condition ne jamais ni regarder ni approcher un mort. Ben depuis, il a la trouille des formes immobiles. Il est bête, mais pas méchant. Quand je pense qu'il ne sait même pas que c'est un poète ukrainien le nom de sa rue. En plus, cet idiot, il est pro-russe. Cela m'a donné une idée. Mais le plus urgent, allez voir de plus près avec les jumelles si c'est un Maccabée. Militaire ou civil, il a le droit à une sépulture correcte. Avec les premiers soleils, il va rapidement sentir mauvais et les abeilles n'aiment pas cela. Ce coin de prairie est vite fleuri de boutons d'or et de coquelicots. J'attends le crépuscule. En plein jour, les obus pleuvent davantage, ce qui est arrivé l'autre matin. Heureusement, il y a bien des semaines qu'il n'y a plus de messe ici. Il ne reste que 2 mécréants. D'ailleurs, j'en ai profité pour récupérer des cierges. Cela sent bien meilleur que les bougies et dure plus longtemps. Il y a des mois que nous n'avons plus d'électricité. Heureux d'avoir encore du charbon à la cave. La chaleur d'un poêle, un thé avec du miel, c'est du bonheur, surtout en temps de guerre. Il m'arrive, bon camarade, d'inviter Paka, malgré ses idées révolutionnaires. Si cette guerre se prolonge, j'abandonnerai le village à mon voisin. J'emporterai mes abeilles là où la paix existe, où les champs n'ont pas de trous d'obus. Semés de fleurs sauvages, les papillons accompagneront mes abeilles et je pourrai marcher sans peur dans la forêt. Mais avant, j'ai 2 choses à faire. Enterrer le mort et changer les plaques de nos 2 rues pour la logique. Je mets sur la maison de Paka la plaque marquée Lénine, lui qui aime tant les Russes autoritaires, et j'installe celle du poète ukrainien libertaire devant ma maison, car je reviendrai avec mes ruches à la fin de ce conflit imbécile et lirai à Paka les poèmes de Shevchenko.
Quand l'administration complique ce qu'elle devrait résoudre.
Le troisième jour, toujours derrière son bureau, il se sentit épuisé, frustré et même vexé. Un instant, son attention s'échappa par la fenêtre, d'où il ne perçut qu'un ciel triste qui s'engonçait dans l'hiver. Fatigué mais acharné, il s'attela de nouveau à son travail. Il enrageait et pestait devant l'inanité de ses efforts. Trois après-midi gâchés uniquement pour tenter de rendre service. Leïla lui avait demandé une aide qu'il n'avait pas osé refuser. Et d'ailleurs, il s'y était attelé de bon cœur, ravi de pouvoir soulager sa charmante voisine. Leïla était une femme plutôt jolie, dynamique, volontaire et assez futée, qui gagnait sa vie en cuisinant. D'origine tunisienne et rurale, elle se levait tôt et travaillait dur pour proposer sur les marchés de l'agglomération pâtisseries, couscous, tagines et autres spécialités savoureuses qu'elle offrait avec le sourire à corte de ses yeux de gazelle. Son commerce restait modeste car Leïla pâtissait d'un gros handicap. Elle était analphabète. À mon avis, une tare irrémédiable dans notre culture qui met en valeur l'argent, la vitesse, le paraître et la réussite sociale. Ce genre d'atrophie scolaire n'émousse cependant pas l'arrogance hautaine de nos premiers de cordée. Serge donc avait accepté d'aller sur les sites de la CAF, de l'URSSAF, de la Chambre de commerce, des HLM, de la banque et des impôts pour débroussailler la partie administrative de l'activité de sa voisine. Et c'est là que les contrariétés se cumulaient. Tout se traite aujourd'hui par Internet. Et malheur à celui qui n'a pas accès à la bureautique. Quant à ceux qui ne savent même pas lire. Le premier obstacle était le statut même de cette micro-entreprise. Un régime spécial qui ne correspondait à aucun critère affiché. Il y avait bien un numéro d'appel pour être mis en correspondance avec un interlocuteur, mais ce numéro sonnait dans le vide. À la troisième tentative, on lui demande de patienter pour être orienté vers le conseiller le plus pertinent. Et il dut attendre un long moment, une voix musicale lui rabâchant une ritournelle insipide qui vantait les charmes du site. Puis on lui signifia qu'il n'avait pas été correctement orienté et on lui raccrocha au nez. Moi, je savais que la plaisanterie lui coûterait 70 euros. Il finira par découvrir qu'il s'agit d'une boîte privée, agissant par délégation de services publics, mais qui surtaxe les appels. Voilà comment on aide les plus démunis. Le service des impôts fut efficace et bienveillant. Les autres officines, en revanche, réclamaient toutes une série d'informations dont la redondante récurrence le désarçonnait. Numéro de sécurité sociale, numéro d'inscription au registre du commerce, carte vitale, extrait de naissance, lequel, étant rédigé en arabe, devait être traduit par un agent assermenté. Chaque administration réclamait les mêmes pièces que les autres, laissant supposer une absence de coordination entre les différents services de l'État. le temps de rechercher les documents qu'il avait pourtant minutieusement scannés et classés, le site se fermait, sous prétexte que le temps de réponse avait excédé la durée tolérée. Parfois, l'identifiant et le code renvoyaient une alerte de contrôle sur la messagerie de Leïla, laquelle était absente. Sur d'autres sites, c'était la litanie exaspérante des « tapez 1, tapez 2, tapez 3 ». Parmi les réponses pré-remplies, aucune ne répondait à la question qu'il n'avait même pas eu le temps de poser. Il avait raison, Serge. C'est exaspérant à la fin, ces dictates en octets. Qui décidait ça? Personne, sans doute. La machine s'auto-alimentait de ses propres algorithmes. Et à qui s'adresser quand vous êtes embourbé dans ce vaste marécage sans âme? Y a-t-il quelque part un être humain, si possible assez charitable pour vous répondre? Le lendemain soir, Leïla va s'enquérir de l'avancement des démarches. Les prospecteurs placiers du marché lui réclamaient maintenant le récépissé de son inscription pour le commerce nomade. Elle avait apporté une assiette de pâtisserie orientale qui sentait la cannelle, le miel, le sucre et la générosité. Serge lui demanda qui lui avait appris à cuisiner. Elle hésita un moment avant de répondre, car Serge pénétrait dans une intimité qu'elle n'avait pas prévu de dévoiler aussi soudainement. Elle sourit, mais cette fois, son sourire était embrumé de tristesse. C'est ma mère, et surtout la belle-mère de mon premier mari qui m'a presque tout appris. Tu sais, Serge, j'ai été marié à 14 ans. Mes parents étaient pauvres. Pour sortir de la misère, ils m'ont vendu à un homme qui avait trois fois mon âge. Et je ne connaissais rien à la vie. Puis j'ai été répudié. Et c'est un vieux Français qui m'a épousé, qui m'a fait venir ici, et il est mort maintenant. Mais quand je suis sur les marchés, que je vois que ma cuisine fait envie, et que j'ai la chance de croiser des gens comme toi, je me dis que la vie m'a réservé un destin enviable malgré tout. Alhamdoulilah.
Vous venez d'entendre Transport en commun, texte de Pascal Audouard, lu par elle-même. Les poupées russes, texte de Daniel Lesseau, lu par elle-même. Le ballon, texte de Philippe Coat, lu par lui-même. Deux hommes simples, texte de Marie-Claude Soulard, lu par Michel Lannes. Leïla, texte de Bernard Ziller, lu par lui-même.
FM 91.2, les ateliers des Valounais.
Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauget. Voix Marie-Jeanne. Réalisation technique Luc Richard.